nous connaissons le caractère de la Loire. S'il nous semble aujourd'hui maîtrisé, à la Renaissance, les riverains doivent composer avec cette nature changeante et difficile. En 1549, Joachim du Bellay évoque la majesté du plus long fleuve de France. Débit changeant, étiage sévère, inondations catastrophiques, à la Renaissance bien plus qu'aujourd'hui, le riverain subit les humeurs du fleuve. Il s'installe à l'abri sur des éminences naturelles, des monticules d'alluvions comme le quartier de la cathédrale Saint-Gatien à Tours, ou sur des tertres construits comme l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire, ou encore derrière des turcis. Les turcis sont les premières digues. Elles sont submersibles, discontinues, faites de pieux, de pierres et de terre. Progressivement, elles sont transformées en levées et sont continues et habitées, comme la grande levée d'Anjou édifiée sous Henri II Plantagenet au XIIe siècle. Trois siècles plus tard, au XVe, Louis XI ordonne le rehaussement des anciennes levées et la construction de nouvelles. En 1560, François II ordonne que Tours, Blois et Orléans élisent deux commissaires chargés de leur entretien. À Amboise, on réclame une taxe pour leur réfection, en précisant bien que l'argent ne doit pas être utilisé à d'autres fins, la cause étant de grand intérêt. En cette fin du XVIe siècle, apparaît le souhait d'une politique centrale avec la création de la surintendance des levées et turcis qui sera effective sous Henri IV. Les levées tentent de fixer le cours principal du fleuve. Elles facilitent la navigation et contiennent les crues. Mais elles protègent également les terres cultivables, ces terres enrichies des limons fertiles déposés par les anciennes crues. En Anjou et en Orléanais, les vignobles se multiplient, les céréales s'implantent aux alentours de Blois et la plaine Tourangelle est le domaine des maraîchers. De retour de Villandry, un cardinal décrit au pape des salades encore plus belles qu'à Rome. Un Italien loue les poires du sol de Touraine qui donnent une idée de la bonté des fruits du paradis terrestre. La réputation de la Touraine, jardin de la France, date de cette période où des jardiniers royaux œuvrent à l'acclimatation et à la culture de nombreux arbres fruitiers et plantes potagères nouvelles. Le Val de Loire devient une terre jardinée. La Loire est un fleuve vivant, changeant. Les courants font régulièrement apparaître ou disparaître des îles parfois habitées ou des chenaux. Le déplacement naturel des berges de Loire est important. Les habitants des îles plantent parfois des pieux ou de la végétation pour en stabiliser le sol. À la fin du XVe siècle, à Tours, la berge de la rive gauche est occupée par des grandes grèves de sable. Les archéologues ont retrouvé la muraille qui longeait la rive 10 à 15 mètres plus au sud. Les variations de débit alimentent des canaux naturels et artificiels. À l'époque de Pierre de Ronsard, le prieuré Saint-Côme est implanté sur une ancienne île reliée à la rive gauche de la Loire. À Saumur, le souvenir du bras de Loire appelé la Boire Quentin est conservé par un nom de rue. Certains canaux servent aussi à décharger le trop-plein du fleuve, comme celui de la Bouillie à Blois, le plus ancien déversoir mentionné en France. Malgré tous les efforts, la Loire n'est pas maîtrisée. Les inondations marquent les souvenirs et sont fréquentes. 14 fois dans l'Orléanais, 11 en Touraine, 7 fois dans le Saumurois et 5 fois au Pont-de-Cé. De nombreux témoignages de riverains racontent ces crues meurtrières qui détruisent les maisons, les ponts, les levées, mais aussi les récoltes et rendent parfois les sols infertiles. En 1615, François Bourneau, un témoin d'alors, décrit une crue exceptionnelle appelée le déluge de Saumur. L'hiver avait été grand et fort neigeux. Les neiges étaient demeurées sur la terre près d'un mois et commencèrent à fondre vers les premiers jours de carême. D'un côté, Loire, Vienne et Authion s'élevèrent contre nous et assiégèrent notre ville. Les eaux ne laissèrent plus voir la terre. Saumur, qui est comme une péninsule ou une presqu'île entre quatre rivières, ressemblait plus à une île qui nageait entre les eaux. Et pourtant, ce paysage est beau. Combien de poètes de la Renaissance ont chanté ces charmes et combien d'auteurs y puisent l'inspiration, décrivant le lien indéfectible qui nous unit au fleuve ?